Bon, bah écoutez, après tous les plaisirs de la vie, les plaisirs du palais, les plaisirs de la musique, voilà, nous allons passer à la partie débat, au plaisir du débat. Encore du plaisir, voilà. Bon, bah écoutez, je vous présente rapidement la tribune. À ma droite, Marion Rinaldi, qui travaille à Renault Sauvab à Badilly. À ma gauche, Jean-Pierre Mercier, qui est porte-parole nationale de lutte ouvrière. Et moi-même, Étienne Audara de Metz. Voilà. Bon, et donc on va faire un débat à la bonne franquette, comme on a dit. Jean-Pierre va faire une introduction d'une dizaine de minutes. Et puis après, bah écoutez, la parole est à vous et à toutes vos questions. Donc je passe tout de suite la parole à Jean-Pierre Mercier.
Bien, bah, bonjour à tous ceux que j'ai pas eu l'occasion de dire bonjour, c'est-à-dire la majorité.
Donc, ah oui, ça marche. C'est peut-être un peu fort. C'est bien. Bon. Donc, bonjour à tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de voir. On vous propose un petit débat entre nous sur la situation générale du monde du travail, c'est-à-dire sur l'actualité, sur ce qui se passe, enfin sur ce qui s'est passé un peu ces dernières années, sur ce qui se passe actuellement, et puis comment en tant que militant ouvrier, comment en tant que travailleur, on peut avoir des perspectives dans la situation actuelle qui est loin d'être rose pour le monde du travail. Je vais faire juste une très très légère introduction sur le fait que je ne sais pas si vous. Enfin, je sais que vous vous souvenez, à la campagne des présidentielles, la dernière campagne des présidentielles de 2012, avant le deuxième tour, tous les partis de gauche, qui se réclament de la gauche, du NPA, en passant par le Front de Gauche, le Parti Socialiste évidemment, le Parti Communiste, ils nous présentaient tous Sarkozy comme le mal absolu. C'était Sarkolande, c'était le sarkozisme. Et c'était à cause de la personne de Sarkozy que on connaissait la crise économique, que les travailleurs s'en prenaient plein la tête, et qu'à partir du moment où on faisait sauter Sarkozy, ça irait beaucoup mieux pour les travailleurs. On a été les seuls à ne pas voter au deuxième tour pour Hollande, en disant que c'était pas un problème de personne, que la situation économique faisait que le patronat, quel que soit le président qui allait être élu, entre Hollande et Sarkozy, c'est que de toute façon, ça sera la politique des patrons qui sera mise en place. Et quand on fait un peu le bilan des à peine 3 ans de la présidence de Hollande, eh bien on peut se dire qu'aujourd'hui, la situation, c'est même pas qu'elle était égale à celle de Sarkozy, c'est qu'aujourd'hui, c'est pire. C'est pire, non pas parce que c'est Hollande, mais parce que les patrons demandent au gouvernement, aux différents gouvernements, Hérault et Valls, en tout cas demandent à Hollande, eh bien de faire une politique extrêmement dure, parce que la situation économique l'exige, pour tout simplement protéger, continuer à protéger les profits, protéger les bénéfices des grandes entreprises. Je ne vais pas faire la liste de toutes les lois anti-ouvrières que les différents gouvernements ont pondues, mais il y en a quelques-unes quand même qui doivent rester en mémoire. La première, ça a été la réforme sur les retraites. Hollande, dans l'opposition, disant « je serai le grand défenseur de la retraite à 60 ans ». Il y avait même le Parti Socialiste qui était dans les fameux comités de défense de la retraite à 60 ans. Bon, et arrivé au pouvoir, évidemment, il casse tout. Il rallonge l'âge de départ à la retraite. Il y a eu après toute cette propagande sur la compétitivité, sur le fait qu'il fallait que les entreprises soient plus compétitives pour embaucher, pour garder les emplois, pour maintenir l'emploi et même embaucher. Il y a même eu la cerise sur le gâteau pour les patrons, ce fameux CICE, c'est-à-dire des dizaines de milliards qui sont consacrés chaque année aux plus grandes entreprises de ce pays avec le prétexte d'embaucher. On vous donne de l'argent et en contrepartie vous embauchez. Ça, c'est le discours qu'on nous sert. Le chômage n'a jamais autant explosé en France. C'est-à-dire que les patrons prennent l'argent et ils licencient. Ça, ça a été le CICE. Je passe sur tous les cadeaux financiers que ce gouvernement, ces gouvernements ont donné aux patrons. On a eu après l'ANI, l'accord national interprofessionnel, qui a été le fruit d'un accord, d'une signature entre quelques syndicats et puis le MEDEF, où le gouvernement s'est empressé de le transformer en loi. Je rappelle simplement peut-être l'attaque la plus conséquente de l'ANI, c'est que jusqu'à maintenant, les patrons, c'était interdit aux patrons de baisser le salaire de base des travailleurs. Avec l'ANI, c'est autorisé, c'est légal, voilà, entre autres. Et il y avait bien d'autres choses. On a la suite, c'est la loi Macron, qui est aujourd'hui est passée à l'Assemblée nationale. La loi Macron, c'est, on pourra revenir dessus, mais c'est tout un arsenal d'attaques anti-ouvrières sur non seulement le travail du dimanche, mais le travail du dimanche, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus grave dans la loi Macron. C'est quelque chose, c'est un recul, bien évidemment, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus grave. Ce qu'il y a de plus grave, c'est tout l'arsenal juridique qui permet aux patrons de licencier beaucoup plus facilement, qui empêche aux salariés et aux syndicats de contester les plans de licenciement, qui annule tous les délits quand un patron se met hors la loi. Ils auraient simplement à payer des amendes. Et puis c'est surtout au final la casse du contrat de travail, le fait que si cette loi passe véritablement et si les patrons l'utilisent, les salariés seront seuls face aux patrons pour négocier leurs conditions salariales, pour négocier leur poste. C'est un recul. Quand on est réfléchi, quand on prend un peu de distance, c'est un recul sans précédent de plus de 150 années de lutte sociale dans ce pays. Et c'est quand même quelque chose d'énorme qui est en train de se passer, et puis ça va continuer. Il y a maintenant cette espèce de dialogue social. Alors rien que le mot, quand même, dialogue social, c'est la réalité, c'est que ça n'existe pas, le dialogue social. Pour dialoguer, il faut être deux personnes consentantes. Et dans une société qui est divisée en classes, où vous avez des patrons qui exploitent des travailleurs, qu'est-ce que vous voulez? Dialoguer. De toute façon, il y a une position qui n'est pas en équilibre. Le dialogue social, c'est une notion qui a été inventée par les patrons pour faire croire qu'en se mettant autour d'une table, on peut discuter entre salariés et patrons d'égal à égal, et on peut en sortir quelque chose de... C'est toujours gagnant-gagnant, sauf que c'est toujours gagnant-gagnant pour les patrons. Parce que le fait de gagner quelque chose face au patron, il faut l'imposer, toujours. Alors, il y a ce fameux dialogue social qui a été un échec dans les négociations entre syndicats et MEDEF. Ça, c'est pas grave pour le gouvernement. Ils vont essayer de faire passer une loi en juillet. Et puis, même si du côté de la majorité présidentielle, ils rencontrent un certain désaccord, un certain nombre de députés qui ont peur pour leur place pour les prochaines législatives, ils disent on votera pas ça, ils passeront avec le 49-3, qu'on a vu qu'ils l'ont fait pour la loi Macron. Alors, on est dans une situation, quand je dresse le tableau, il n'est pas remontant, il n'est pas motivant. Le problème, c'est quelle perspective? Quelle perspective on a, nous, les militants, les travailleurs, pour s'en sortir de toute cette histoire? On voit que toutes les lois, les plus anti-ouvrières, passent un peu comme une lettre à la poste. Il n'y a aucune réponse de la part des confédérations syndicales. Les grands partis de gauche sont aux abonnés absents. Et il n'y a pas de mobilisation des salariés qui pourraient mettre un coup d'arrêt à toutes ces lois. Alors, il n'empêche que, malgré tout, à Lutte ouvrière, on fait partie de ceux qui sommes toujours convaincus que la seule façon de se protéger des attaques patronales et gouvernementales, de protéger nos conditions de vie, ça sera d'organiser une lutte collective de l'ensemble des salariés, de l'ensemble des travailleurs, pour mettre un coup d'arrêt et pour faire reculer les patrons et les gouvernements. Alors ça sera peut-être un des sujets du débat qu'on aura tout à l'heure, mais on n'est pas de ceux qui proposons au monde du travail de bien voter, de trouver un zéro, de trouver un tribun, un chef, quelqu'un qui nous sortira de là. On propose tout le contraire. Alors, c'est un discours qui est difficile à entendre, rien ne pousse vers ces idées-là, mais on est de ceux qui défendons toujours cette idée fondamentale que dans la société actuelle, pour avoir quelque chose, pour imposer quelque chose, eh bien, il faut se battre collectivement pour imposer des droits, pour imposer des revendications, et puis pour se sauver nous-mêmes. Ce n'est pas par les élections qu'on peut changer les choses. Alors, c'est... On est aujourd'hui dans une situation où on a une force politique, le Front National, j'en parle parce que c'est forcément un peu dans toutes les têtes, qui est en embuscade, qui prend de l'importance pour l'instant au niveau électoral et qui est extrêmement dangereux pour le camp des travailleurs, pour le camp des ouvriers. Alors il faut qu'on ait... Je suis convaincu qu'ici on en a tous conscience de ce danger. Mine de rien, il va falloir le combattre. Et pour le combattre, ça ne va pas être une chose facile, puisque le meilleur soutien du Front National, le meilleur carburant aujourd'hui du Front National pour augmenter ses scores électoraux, c'est tout simplement la politique anti-ouvrière du gouvernement. Plus le gouvernement enfonce le clou, nous fait reculer de mois en mois, casse nos droits, bloque nos salaires, fait exploser les licenciements, plus le Front National trouve un argument pour dire « Vous voyez, même la gauche, ils ne sont pas de votre côté. » Bon. Alors il faut que, à l'opposé du Front National, il faut qu'il y ait une force politique qui s'exprime, même faiblement, même si c'est que faiblement, mais qui s'exprime sur le terrain de la lutte de classe, qui s'exprime sur le terrain politique des intérêts des travailleurs. Et c'est ce qu'on propose... quotidiennement, à chaque élection aussi, de faire entendre ce camp des travailleurs, de faire entendre le fait qu'il faut qu'il y ait une opposition ouvrière face à ce gouvernement et face au patron. Mais une opposition qui corresponde aux intérêts politiques de la classe ouvrière. Qu'on ait des objectifs de lutte à mettre en avant. Qu'on ait des choses sur lesquelles, des objectifs sur lesquels l'ensemble de la classe ouvrière peut et doit se retrouver quand elle se mettra en lutte, quand on aura retrouvé ses forces, quand on aura retrouvé confiance en elle, qu'elle puisse au moins savoir sur quoi il faut qu'elle se batte pour faire reculer durablement les patrons et les gouvernements. Alors c'est toutes les idées qu'on défend quotidiennement, c'est face au chômage, l'interdiction des licenciements, la répartition du travail pour tous sans diminuer les salaires, c'est face à l'augmentation des prix, des impôts, des taxes, c'est l'indexation des salaires face à cette augmentation de tous les prix. Et puis c'est aussi, d'une manière ou d'une autre, populariser cette idée qu'il faut que les travailleurs ils aillent fouiller dans les comptes des entreprises, qu'ils aillent voir, qu'ils aillent chercher la vérité des comptabilités des grandes entreprises. Toutes ces entreprises qui déclarent des plans de licenciement, soi-disant parce qu'elles sont en déficit. J'ai en tête l'entreprise où je travaille, le PSA, où depuis quelques années, ils ont suriné le fait que on était au bord du gouffre, qu'on allait mettre la clé sous la porte. Bon, si on avait eu cette force, cette organisation d'aller fouiller dans les comptes, d'aller fouiller dans la comptabilité, on se serait rendu compte, bien évidemment, que de l'argent, il y en a plus qu'il n'en faut pour maintenir les emplois, augmenter les salaires, etc. Et embaucher tous les intérimaires. Donc on a... c'est un peu tout ça que je voulais mettre en débat. Sur le fait que pour se sortir de cette situation, je répète, mais il faut en être convaincu, il n'y a qu'une seule perspective, c'est la lutte collective des travailleurs. Et pour que ces luttes puissent gagner quand elles naîtront, eh ben, il faudra qu'il y ait un parti ouvrier, communiste, révolutionnaire, qui existe dans ce pays. Il faut le reconstruire. Mario, il disait dans son discours, dans son allocution, qu'il fallait pas reconstruire la gauche, mais il fallait reconstruire un parti ouvrier, réellement communiste, réellement révolutionnaire, pour défendre les intérêts politiques des travailleurs. Il n'y a que de cette manière-là qu'on pourra s'en sortir et qu'on pourra faire réellement mettre un coup d'arrêt aux attaques et puis se protéger et puis poser des jalons pour l'avenir et changer cette société.